Bonsoir à tous. Voilà, nous nous retrouvons ensemble réunis ce soir sur ce podcast pour continuer les enseignements de l'école des disciples dans ce cycle qui est notre pour cette année où nous continuons à approfondir les différentes formes de prière de l'Église et pour nous les chrétiens pour former encore une fois notre intelligence et notre foi et notre pratique de la prière. Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour le thème de l'adoration, la forme de prière de l'adoration. Vous savez que chaque moine, chaque religieux, chaque prêtre, les premiers mots qu'ils disent en se levant le matin, en commençant ce qu'on appelle la louange divine, les laudes, en ouvrant leur bouche et leurs lèvres, en faisant le signe de la croix dessus, commencent par ces mots de l'hymne, de l'invitatoire. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Alors pour notre entretien ce soir, on va voir d'abord en premier lieu ce qu'est l'adoration pour nous les chrétiens. Ensuite, cette forme particulière de l'adoration qui est l'adoration eucharistique dans un deuxième point. Je développerai dans un troisième point ce qui se passe en nous, un petit peu dans l'adoration eucharistique. Et puis dans un quatrième point, on verra les fruits de l'adoration, quelques fruits de l'adoration qui récapitulera ce qu'on aura dit. Et enfin, comment adorer Jésus dans l'Eucharistie, quelques pistes pratiques avant de conclure sur ce qu'est deux actes de l'adoration particuliers aussi. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Écoutons d'abord la parole de Dieu dans ce passage célèbre de Jésus avec la Samaritaine, quand la femme samaritaine lui dit: Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et le Seigneur de lui répondre: Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Voilà, nous découvrons donc dans ce texte biblique l'importance pour le Christ de l'adoration. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous découvrons, et nous le savons, nous chrétiens, que l'adoration est un acte que l'on doit à Dieu seul. On le voit notamment dans le combat de Jésus au désert avec le démon quand celui-ci lui propose de se prosterner devant lui et d'avoir tous les royaumes. Et le Seigneur Jésus de répondre: C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. L'adoration est donc un acte particulier, un culte particulier que l'on doit à Dieu seul. Et vous savez que ce n'était pas si évident dans l'Ancien Testament ou même dans certaines cultures, je pense par exemple aux empereurs chinois ou à d'autres, qui se faisaient passer pour Dieu et qui demandaient à ses sujets aussi cette adoration et qui une soumission finalement. Intégrale de la personne à son empereur ou autre. Et le Seigneur de répondre que non, cet acte spécifique, eh bien, n'appartient qu'à Dieu. Alors adoration, même en grec, se dit proskénésis. C'est le geste très concret de se prosterner contre terre hein, et qui signifie notre respect et notre soumission. Cette prostration, on le voit, je vous le disais, parfois d'hommes face à des anges, face à des idoles dans l'Ancien Testament ou face à des empereurs chinois, autres. Et ce geste, finalement, normalement, devrait être adressé que à Dieu. Néanmoins, l'adoration, l'acte d'adoration n'est pas qu'un geste matériel et extérieur. Évidemment, on peut se mettre à genoux devant une statue, devant sa fiancée quand on lui demande sa main, devant un pauvre pour lui laver les pieds, mais le geste de prostration, en fait, d'inclinaison ou de genuflexion, est typique réservé à Dieu. On fait une genuflexion devant le Saint-Sacrement de l'Eucharistie, on fait une genuflexion que devant Dieu. Et le Seigneur, d'ailleurs, lui-même, dans son dialogue avec la Samaritaine, nous dit que adorer n'est pas seulement un acte extérieur, et d'abord, évidemment, comme le mot semble signifier en grec, mais une attitude intérieure. Vous adorez en esprit et en vérité. D'ailleurs, pour appuyer cette dimension intérieure de l'adoration, qui est un acte donc rendu à Dieu seul, dans le credo, on dit du Saint-Esprit qu'il reçoit même adoration et même gloire, pour signifier par là évidemment qu'il est Dieu, lui aussi, et qu'il doit cet hommage de notre adoration. Néanmoins, l'Esprit Saint étant invisible, il est difficile de faire la genuflexion devant lui. Voilà, si on vous voit faire la genuflexion dans la rue parce que vous vous mettiez en présence de l'Esprit Saint, les gens vont trouver ça un petit peu bizarre, évidemment. Alors, l'adoration, pour résumer et spécifier un petit peu ce terme, du coup, dont on a vu que c'est d'abord un acte intérieur, c'est une intuition intérieure, évidemment, un sentiment intérieur d'un lien de notre prière vers le Seigneur, mais qui nous fait reconnaître ou percevoir Dieu, finalement, dans sa divinité, dans ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire dans sa bonté, dans sa grandeur, dans sa majesté, en sa présence finalement, et qui nous étonne. On adore parce que on est comme stupéfait, comme étonné de ce qu'est Dieu en lui-même. C'est cet acte-là, cette perception-là intérieure qui est l'adoration. Donc adorer, c'est cet acte intérieur de nous rendre présents finalement à Dieu qui est présent, mais c'est faire donc ce constat intime, avec respect et soumission, que nous sommes que des créatures, et que lui nous transcende infiniment, et que nous, en tant que créatures, on dépend de Dieu. Adorer, c'est donc le sentiment intérieur de la dépendance de la créature face à son Dieu transcendant. De là découle évidemment que un des actes de l'adoration intérieure de Dieu, c'est de consentir à qui il est et consentir donc à ce que nous sommes. Et d'ailleurs, quand une distinction vient dans notre prière d'adoration face à ce qu'est Dieu, pour l'empêcher de vagabonder, vers d'autres objets, eh bien, il nous est rappelé dans cet acte de dire oui à Dieu en tant que Dieu et consentir à nous-mêmes en tant que créatures, voilà, même dans nos distractions, même dans nos faiblesses. Et c'est déjà faire un acte d'adoration, de consentir à cet état-là. Adorer dans la Bible Dieu, c'est lui dire finalement Amen, c'est lui dire oui, oui à Dieu comme Dieu et oui à soi-même comme créature. D'ailleurs, celui qui adore parfaitement Dieu le Père, c'est le Christ lui-même qui, dans l'Apocalypse, est décrit par saint Jean comme celui qui est l'Amen avec le grand A, le oui en personne, le oui définitif à Dieu qui vient faire sa volonté. Donc pour nous, souvent, quand on adore, parfois il suffit juste de dire cela dans l'adoration, j'y reviendrai à la fin, mais de dire Amen, voilà, de faire ce constat-là et de lui dire Amen. Et l'adoration, parfois, suffira à dire simplement ça. Ou si c'est pour nous difficile et que les distractions viennent, eh bien on redit comme Isaïe ou comme d'autres face à Dieu, Saint, Saint, Saint. Alors ce qui dit aussi notre adoration vis-à-vis du bon Dieu, une des expressions de l'acte d'adoration les plus importantes, c'est le silence. C'est vrai dans les religiosités naturelles et c'est vrai évidemment pour la foi chrétienne et la foi catholique. Silence, terre entière, dit les psaumes face à Dieu. Et vous vous souvenez, Job, à la fin de son histoire, où il a discuté, palabré avec Dieu, ou parfois même râlé, eh bien à la fin finit par ces mots si beaux, « Moi qui suis si peu de choses, dit-il, que pourrais-je te répliquer ? Je mets la main sur ma bouche et je fais silence. » Amen. D'ailleurs, adorer, c'est plus on reconnaît Dieu en tant que Dieu et nous-mêmes en tant que créatures, eh bien, il se passe un petit peu ce qui se passe quand on monte une montagne. plus on s'élève dans une montagne, plus l'air se raréfie et plus il est difficile pour nous de parler et de dire des mots face au bon Dieu. Et bien plus on se rapproche de Dieu, plus notre prière, nos paroles, et bien se taisent pour rentrer dans le grand silence, évidemment, et ce grand acte d'adoration, cet hymne de silence que l'on adresse à Dieu comme Dieu. Amen. Alors pour résumer ce petit passage que je viens de dire, qu'est-ce que l'adoration en général du coup? Eh bien l'adoration exige donc à consentir à qui est Dieu et à ce que nous sommes en tant que créature, et l'adoration exige en nous de faire silence devant lui. Alors vous allez me dire, Père Grégoire, consentir et faire silence, on a l'impression d'un gros abus d'autorité de la part de Dieu sur les créatures. Est-ce que évidemment c'est digne? Est-ce que le bon Dieu nous demande cela? Est-ce que c'est pas trop autoritaire? Est-ce que la créature n'est pas complètement écrasée et humiliée en disant adorer finalement c'est se taire, faire silence et consentir à ce que lui soit Dieu et nous créatures? Donc oui, évidemment, l'acte d'adoration aussi est un acte d'humilité, d'humiliation même, de vouloir se rendre petit, de vouloir se rendre à notre place devant Dieu et de vouloir que Dieu ait sa place en tant que Dieu. Et du coup, ça suppose en nous eh bien, d'humilier notre autosuffisance, notre vaine gloire ou de s'estimer plus que ce que nous sommes. Néanmoins, justement, donc, adorer dans ce cas-là, faire cet acte-là, qui semble humiliant pour l'homme face à Dieu, Dieu n'en a pas tellement besoin, mais c'est un acte profondément libérateur parce qu'il vient révéler ce que nous sommes en nous-mêmes, la vérité de notre être. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le petit catéchisme, on apprenait quand on était enfant, l'homme est fait pour louer, servir et aimer Dieu. Et du coup, on participe par cet acte d'adoration au grand retour de Dieu, de l'homme qui se tourne vers Dieu. Par exemple, pour prendre une image dans les réalités naturelles, vous voyez comme notre cœur qui ressemble à un ruisseau et qui finalement devient de plus en plus calme, de plus en plus large et un fleuve puissant. Et en se rapprochant de la mer, et ainsi, la créature qui a tort Dieu eh bien, s'élargit, se pacifie et devient de plus en plus elle-même avant de se jeter en Dieu. Et du coup, adorer, il ne faut pas le voir du tout comme une dimension négative de notre être. Au contraire, c'est une dimension qui doit être joyeuse et enthousiasmante. Vous savez, je me souviens de Saint François ou même des saints qui, à la fin de leur vie, de leur expérience mystique, ils avaient des phrases lapidaires comme ça. « Dieu seul suffit », disait-il dans la joie, ou « Dieu est Dieu », criait Saint François dans la joie. On exprime sa joie en adorant de ne pas être Dieu. Et que Dieu soit Dieu, et que nous, on soit créatures, et qu'il nous aime. Et on admire cet état de fait, et cet état des choses qui nous a créés, qui nous a voulu comme créatures, et qu'il est infiniment grand, on l'admire, on le célèbre, et on l'adore. L'homme n'est jamais aussi grand, d'ailleurs, disait Chesterton, que quand il est à genoux devant son Dieu. Alors donc, j'aborde maintenant mon deuxième point. Pour nous, catholiques, évidemment, on a une forme particulière d'adoration, qui est l'adoration donc eucharistique. L'adoration eucharistique, c'est évidemment reprendre cet acte d'adoration que j'ai décrit dans mon premier point, mais en se rendant présent à Jésus qui est présent dans le pain consacré, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il faut bien reconnaître que le culte rendu au Saint-Sacrement est assez récent dans la piété chrétienne. Vous savez, en fait, il est né à peu près au XIe siècle, quand s'est développée dans l'Église une hérésie à cause de Béranger de Tours, où il voyait dans l'Eucharistie seulement une présence symbolique, et non pas la présence réelle comme nous le confessons dans la foi catholique. Le Seigneur est présent réellement avec son corps, avec son âme, avec son sang et sa divinité, substantiellement présent, évidemment, sous les espèces eucharistiques. Et du coup, en réaction à cette hérésie pardon, de Béranger de Tours, eh bien, est né tout un courant de piété eucharistique, et notamment avec cette sainte peu connue, cette sainte femme, d'une grande culture, éduquée au Mont-Cornillon en Belgique, sainte Julienne de Cornillon, au nom si délicieux, qui, au jour de ses 16 ans, a eu cette première apparition, cette première vision du Christ qui lui faisait voir une lune brillante barré sur son diamètre d'un trait noir. Et Jésus de lui expliquer évidemment cette vision, la lune représentant l'Église et la vie de l'Église sur la terre, hein, qui reflète la lumière qui vient du soleil, qui est le Christ, et à qui il manquait dans son calendrier liturgique, symbolisé donc par cette bande noire, la fête du Saint-Sacrement. Jésus voulait donc une fête pour adorer l'Eucharistie, sa présence réelle. On sait que Sainte Julienne était très frappée par cette phrase. Elle avait des grands dons de contemplation et elle était frappée par cette phrase de l'Écriture: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et elle a souvent médité ça devant le Saint-Sacrement. Et cette fête liturgique, d'ailleurs, a été mise en forme sous la demande du pape par le grand saint que nous avons à Toulouse, saint Thomas d'Aquin, qui a écrit toutes les hymnes que nous connaissons, la Dorothée dévotée, le Tantum ergum, pour justement honorer le Saint-Sacrement. Depuis lors, depuis le XIe siècle, cette dévotion au Saint-Sacrement n'a cessé de grandir, évidemment, dans la vie de l'Église, dans la vie des saints, tel un buisson ardent planté dans chacune de nos églises, de nos chapelles, s'est allumé du coup un foyer brûlant pour tous les chrétiens et pour tous les saints et les fils de l'Église qui se sont réchauffés de génération en génération auprès de Jésus dans le tabernacle, de Jésus dans le Saint-Sacrement, pour y puiser des énergies spirituelles pour leur foi et pour leur mission. Voilà, on le voit par exemple chez ce grand saint qu'a été notre pape Jean-Paul II. Vous savez qu'il passait des heures dans sa chapelle privée dans le Vatican, devant le Saint-Sacrement, qu'il écrivait même ses encycliques devant le Saint-Sacrement, bien souvent. Et on a ce témoignage personnel de l'adoration du Saint-Père dans une des encycliques qu'il a écrites devant le Saint-Sacrement, qui est Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie, où il disait lui-même ces mots-ci, que je vous cite: C'est magnifique de s'arrêter auprès de lui comme un disciple bien-aimé, se pencher sur sa poitrine et de sentir le contact de l'amour infini de son cœur. Combien de fois, dit le pape, chers frères et sœurs, j'ai vécu cette expérience et reçu de lui réconfort et soutien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'adoration eucharistique? C'est mon troisième point de mon topo ce soir. Souvent, vous l'avez remarqué, quand on expose Jésus dans le Saint-Sacrement, on le place dans ce qu'on appelle un ostensoir, qui représente bien souvent un soleil. Jésus au milieu d'un soleil, reprenant ainsi d'ailleurs le thème biblique du Christ comme soleil de justice, qui nous irradie de sa lumière. Quand on adore justement et qu'on arrive avec toutes nos questions, nos questionnements et nos soucis et nos plans, eh bien on essaye de déposer sa propre lumière devant le Saint-Sacrement, nos propres idées devant Dieu, pour que dans le calme et le silence, en sa présence, nous puissions nous laisser habiter par la lumière de Dieu qui pénètre notre cœur et qui la guérit. Quand on fait ça, justement, on accomplit d'ailleurs la prophétie de Joël dans la Bible, où le Christ est comparé évidemment à un soleil, et dont il est dit que par ses rayons, il apportera à son peuple la guérison. Voilà, et bien c'est ces rayons qui sont représentés sur l'ostensoir, où Jésus, quand on adore, on se dépose, nous irradie de sa lumière, évidemment, et guérit profondément notre cœur. Il se passe donc dans l'adoration ce qu'un théologien décrivait par une image que j'aime beaucoup, c'est l'image de ce processus naturel qu'on appelle la photosynthèse, qu'on a tous appris au primaire ou à l'école. Vous le savez, quand vient le printemps et que les arbres commencent à reprendre vie à nos yeux, et que les feuilles vertes commencent à sortir, eh bien nous savons qu'autour d'elles, elles absorbent des éléments dans l'atmosphère, et c'est grâce au soleil, du coup, qui les irradie, qu'elles peuvent fixer ces éléments, et du coup les créer en aliments pour nourrir la plante, et puis ensuite l'arbre tout entier, et qu'il donne du fruit. C'est le processus de la photosynthèse. D'ailleurs, ce processus aussi, eh bien, permet de purifier autour de soi l'oxygène et notre oxygène que nous respirons. Eh bien, l'âme qui adore, les âmes qui contemplent, les âmes eucharistiques sont comme, disait ce théologien, c'est des feuilles vertes pour l'arbre qui est l'Église. Elles fixent en elles le Saint-Esprit, le don de l'Esprit Saint. Ce n'est plus seulement donc notre esprit qui habite en nous, mais c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. C'est le désir de Dieu qui habite en nous. C'est les idées de Dieu qui habitent en nous. Les pensées et la volonté de Dieu en nous. Vous vous souvenez du psaume, d'ailleurs, qu'on reprend dans un beau chant d'adoration, qui regarde vers lui, resplendira sur son visage plus d'amertume, sur son visage plus d'amertume. Eh bien, quand on adore, on est comme Moïse qui rentre dans la tente de la rencontre et qui s'illumine intérieurement parce qu'il fixe en lui l'Esprit Saint, il fixe en lui eh bien, la lumière de Dieu. Et nous aussi, quand on adore, nous n'avons plus de voile sur le visage, plus d'amertume, elle s'enlève, elle se dissout, comme dit saint Paul, et nous reflétons de plus en plus la gloire du Seigneur, et nous sommes transfigurés, rajoute-t-il, en son image. Et nous allons de gloire en gloire, dans une gloire de toujours plus grande, par l'action du Seigneur qui est esprit. Alors, quand on adore, tout simplement, pour continuer les images et les analogies, on a tous cette image de la bûche de saint Jean de la Croix qui décrit une âme qui adore Dieu et qui s'approche de ce buisson ardent, de ce foyer ardent qui est la présence de Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, ressemble à cette bûche que toute humide, sale et moche que l'on commence à mettre au feu. Elle commence à fumer, à exhaler beaucoup de fumée, et puis elle commence à craquer de toutes parts, hein. C'est pas toujours facile du coup, mais s'échappe en nous mille pensées, mille distractions, et puis les vers et les fourmis et les asticots qui étaient cachés dans cette bûche un peu pourrie commencent à sortir et à s'enfuir, hein. Et nos passions mauvaises commencent à s'échapper, évidemment, et, afin de devenir eh bien, de plus en plus feu, de plus en plus habité par l'Esprit Saint. Alors dans le quatrième point de mon topo, on va voir quelques fruits non exhaustifs évidemment de l'adoration eucharistique. Et ça nous permettra un petit peu de récapituler ce que nous avons déjà dit dans les trois premiers points que nous avons exposés. Alors, comme premier fruit évidemment de l'adoration eucharistique, c'est que le Seigneur, quand il voit une âme qui s'approche du Saint-Sacrement pour l'adorer, il réchauffe, comme je le disais, notre amour personnel pour lui. Et il prolonge dans nos vies la conscience de sa présence à nos côtés. Voilà, on vit le mystère de l'Eucharistie à la messe et il se prolonge dans l'adoration eucharistique comme un acte liturgique dans nos semaines. Et on a plus conscience de la présence de Jésus au milieu de nous, dans nos journées, dans nos villes, dans nos cités. Un deuxième fruit, évidemment, de l'adoration eucharistique, c'est ça crée en nous la joie. Du coup, ça vient guérir notre voile d'amertume, comme dit le psaume, et de tristesse pour faire jaillir en nous la joie et renouveler la joie. Comme troisième fruit de l'adoration eucharistique, évidemment, ça peut renforcer en nous et puis entre nous l'unité de nos paroisses, de nos communautés, car plus on s'unit à Jésus, plus on l'adore dans le Saint-Sacrement, et bien plus Jésus lui-même nous unit par son lien de charité entre nous. Car nous le savons, plus on est unis évidemment à celui qui nous rassemble, à la tête, plus les membres forment un seul corps, et ainsi que on le voit aussi dans une roue de vélo tout simplement. Plus on se rapproche du centre, plus les rayons eh bien, s'approchent aussi les uns des autres. Un quatrième fruit de l'adoration eucharistique, évidemment, et c'est un des grands fruits de l'adoration eucharistique, c'est que le Seigneur vient nous apporter la paix. Je vous disais tout à l'heure que cette petite image, elle est très vraie, que reprennent les saints, une âme qui adore, une âme eucharistique ressemble à ce ruisseau et ce torrent tout fougueux et qui bondit et jaillit dans tous les sens et qui devient petit à petit un fleuve large, calme, puissant. Car seul, évidemment, l'amour de Jésus est capable d'orienter nos désirs vers la paix, nos projets évidemment pour les pacifier et notre vie évidemment vers cet océan de paix et d'amour qu'il est lui-même. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, disait saint Augustin, c'est vraiment cette expérience du disciple bien-aimé qui pose sa tête sur le cœur de Jésus. Comme dans l'adoration, on vient déposer eh bien, notre cœur sur le cœur de Jésus pour avoir sa paix et puis découvrir évidemment ses projets à lui, son désir à lui, et finalement, et puisqu'on sait qu'il veut notre bonheur, eh bien, il réoriente notre vie, il la pacifie pour l'amener vers son plus grand bien, vers son propre cœur à lui. Un autre fruit de l'adoration, évidemment eucharistique, est un amour renouvelé et plus grand pour les pauvres et pour chacun de nos frères, parce qu'on discerne de mieux en mieux l'image du Christ en eux. À s'user les yeux, à discerner la présence de Dieu sous les espèces pauvres et simples de l'Eucharistie, eh bien on éveille notre regard intérieur, notre regard spirituel, à discerner au-delà de l'apparence physique des gens ou même de leurs limites, eh bien l'image cachée de Dieu en eux. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, mais les grands saints aiment l'Eucharistie, ont une grande dévotion avec l'Eucharistie, et ils mettaient beaucoup d'amour à soigner, évidemment, Jésus dans l'Eucharistie. C'est vrai, en ayant des nappes blanches, nickel, les choses repassées, en soignant, évidemment, l'attention qu'on portait au Saint-Sacrement, les aidaient beaucoup, après, à avoir cette même délicatesse de cœur, cette même attention à vêtir, à nettoyer, à prendre soin, eh bien, du pauvre qu'ils devaient accueillir. On le voit d'ailleurs chez tous les grands saints, Saint Vincent de Paul, Mère Teresa, qui se sont occupés des pauvres. Ils passaient des heures devant le Saint-Sacrement aussi, à s'occuper du bon Dieu dans l'Eucharistie, à l'adorer, à prendre soin, pour avoir des forces justement, et cette délicatesse de cœur, pour s'occuper aussi bien des pauvres que le Seigneur leur envoyait, tout simplement, dans leur apostolat. Alors bien sûr, il y a plusieurs autres fruits qui découlent de l'Eucharistie, vous avez bien compris en le redisant, hein, la joie, la paix, l'unité, l'amour des pauvres, l'amour de Jésus, la charité, la bonté, eh bien sont finalement les fruits de l'Esprit Saint, hein, les 12 fruits de l'Esprit Saint cités par Saint Paul, comme je le disais, parce que le Seigneur fixe l'esprit, son esprit en nous, et du coup, eh bien c'est pas étonnant qu'on retrouve tout simplement les fruits de l'Esprit Saint. Alors dans mon cinquième point que j'aborde ce soir de mon topo sur l'adoration, un point un petit peu plus pratique, c'est comment adorer Jésus dans l'Eucharistie. Alors très concrètement, c'est déjà aller en présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc c'est se déplacer et aller dans une chapelle ou dans une église et se tenir là, seul ou en communauté, devant le Saint-Sacrement. Vous connaissez tous évidemment cette histoire, hein, de ce paysan du curé d'Ars, que le Saint-Curé voit au fond de son église et qui lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et ce paysan doit lui répondre eh « Je l'avise et il m'avise. » Ainsi, ce paysan prenait chaque jour dans sa journée un petit temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, qui n'était pas exposé dans un ostensoir, mais qui était là réellement présent dans le tabernacle. On découvre et on redécouvre d'ailleurs que par là, concrètement, adorer, c'est d'abord porter un regard d'amour sur Jésus présent dans l'Eucharistie. Je l'avise et il m'avise. Et c'est essayer d'échanger ces regards, de vivre ce face-à-face avec le bon Dieu, simple, pour que nous puissions vivre un cœur à cœur. Vous connaissez tous l'épisode biblique de Zachée, qui est trop petit et qui veut voir Jésus. C'est le grand thème biblique de voir Dieu, voir la face de Dieu dans l'Ancien Testament, de Moïse, des prophètes, et de Zachée aussi, qui est petit, qui veut voir le Seigneur et qui monte dans son arbre pour eh bien, le percevoir, le regarder, évidemment. Et le Seigneur, dans ce face-à-face et dans le dialogue qu'il va faire avec lui, évidemment, eh bien, lui dira maintenant, descends de ton arbre, je veux aujourd'hui demeurer en ta maison. Eh bien, l'adoration commence donc par un regard d'amour, vouloir voir Jésus et prendre du temps à le regarder dans sa présence, là, dans nos vies, humblement, sous les espèces eucharistiques, pour que petit à petit, eh bien, dans ce regard contemplatif, eh bien, il y ait un cœur à cœur qui s'opère et que nous puissions laisser le Seigneur habiter en nous. Alors je l'avise et il m'avise, c'est aller dans une chapelle devant le Saint-Sacrement pour le regarder. Souvent, évidemment, notre regard intérieur vis-à-vis du bon Dieu faiblit. Il nous faut peut-être penser alors que adorer pour nous sera se laisser regarder par le bon Dieu, faire cet acte de foi que le bon Dieu nous regarde. On a cette expérience chez les saints et les mystiques souvent de voir dans l'oraison, dans la contemplation qu'ils avaient de Jésus dans le Saint-Sacrement, parfois la difficulté, s'évader, les distractions, évidemment, qui arrivaient. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui pensait au Seigneur qui était en train de la regarder alors qu'elle jouait comme une petite fille qui s'agitait aux pieds de son papa. Et que son père était dans le fauteuil, dans le salon, et qui ne disait rien, et qui pourtant la contemplait, elle. La grande Thérèse, d'ailleurs, à la fin de sa vie, on lui demandait, ben, que faites-vous, ma sœur? Ben, je prie. Et que dites-vous, ma sœur? Je ne dis rien, je l'aime. Point. Finalement, adorer sera donc de se laisser aimer par le bon Dieu en sa présence objective, présente dans l'Eucharistie. Et donc passer du temps, et même perdre du temps, si on se distrait devant Dieu, devant lui, en ayant foi que lui nous regarde et lui nous travaille au cœur, et lui nous opère en profondeur, et lui envoie ses rayons X dans nos âmes, évidemment, pour nous guérir et nous fortifier. Selon d'ailleurs l'expérience qu'ont vécue eux-mêmes les apôtres dans le jardin de Gethsémani, à la fin du parcours terrestre de notre Seigneur Jésus en la chair, quand il demande, alors que eux luttent par le sommeil et les distractions, eh bien de rester avec ici avec lui et de veiller avec lui. Restez ici et veillez avec moi, dit Jésus. Et nous souvent, eh bien on reste juste devant le Saint-Sacrement et on veille avec lui et c'est lui qui nous opère. On peut aussi adorer pour pas être trop distrait par les distractions, évidemment, et s'évader, comme le faisait Sainte Julienne ou de grands saints, et bien se servir de la Bible ou d'une parole biblique qu'on mâche en nous-mêmes et qu'on rappelle en nous-mêmes souvent, comme le faisait Sainte Julienne, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et souvent, elle faisait tourner cette phrase dans son cœur en présence de Jésus. Ou on peut, eux aussi, prendre un chant dans le silence intérieur, pour nous remettre en sa présence. C'est une bonne méthode et un bon moyen de rechanter Saint, 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 ou Me voici humblement devant toi, tout simplement en ta présence, et redire avec peu de mots eh bien, notre adoration devant Dieu en chantant intérieurement eh bien, un hymne de louange à sa gloire. On peut aussi, évidemment, même si ce n'est pas la même chose, eh bien, prendre le chapelet et demander à Marie de méditer sur les mystères de la vie de Jésus. Voilà, dire le chapelet pour méditer sur la vie de Jésus qui est présent devant nous dans le Saint-Sacrement. En propre, quand on n'est pas tout seul devant une chapelle et que le Saint-Sacrement est exposé, comme on le fait dans notre paroisse, eh bien, on alterne des temps de silence et des temps de chant méditatif devant le Saint-Sacrement. Et vous savez que pour nous à Toulouse, on a la chance parce qu'on a aussi le Saint-Sacrement exposé de manière permanente dans l'église de Saint-Jérôme, au centre-ville, où nous pouvons eh bien, passer pour prendre un temps d'adoration. On adore aussi Jésus dans le Saint-Sacrement, dans cette fête Dieu qui a lieu une fois par an, où normalement on essaye eh bien, de faire une grande procession pour redire que Dieu est présent dans nos villes et dans nos vies et dans nos villages, du coup, où on l'expose autour de nos églises et dans les rues de nos villes et de nos villages, pour signifier qu'on est un peuple en marche derrière lui et que Dieu est présent au milieu de nous. En pratique, un des bons actes d'adoration envers Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est ce qu'on appelle la visite au Saint-Sacrement. Vous savez, de nombreux saints, de nombreuses personnes, en fonction du moment où ils communiaient dans la journée, séparaient souvent leur journée en deux. S'ils avaient la messe le matin, ils allaient l'après-midi, pour pas trop s'éloigner de Jésus présent dans l'Eucharistie, faire un passage devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, où ils faisaient ce qu'on appelle une visite au Saint-Sacrement. Alors très concrètement, ça se présente comme on se met à genoux devant le Saint-Sacrement et on lui fait un salut liturgique, donc un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, et on dit qu'on l'adore trois fois, et on recommence une deuxième fois, un Notre Père, un Je vous salue, un Gloire au Père, et on lui dit qu'on l'adore. Voilà, pour rendre grâce souvent à Jésus pour sa présence en nous dans l'Eucharistie que nous avons reçue le matin à la Sainte Messe. Et on peut le faire vice-versa. Si on a la messe le soir, eh bien le matin, on fait une petite visite au Saint-Sacrement pour penser à Jésus que nous allons recevoir dans l'Eucharistie pendant la messe. Évidemment, on peut adorer aussi Jésus dans le Saint-Sacrement pendant la messe, où généralement, pour ceux qui le peuvent, on se met à genoux pendant la consécration, donc qui est le signe extérieur de notre adoration envers le Saint-Sacrement, et une genouflexion souvent quand on reçoit Jésus dans la Sainte Communion. Et puis, il est bon de prendre un petit temps d'adoration. Après ce face-à-face avec le Seigneur, eh bien on est dans le temps du cœur à cœur, après la communion, dans ce temps qu'on appelle l'action de grâce, qui a lieu pendant une fois communié, ou après la messe, pendant quelques minutes, où on prend le temps eh bien d'adorer la présence de Dieu en nous. Vous savez, les saints ont souvent soigné ce petit moment, même si c'est 2 minutes, de profonde oraison, de profonde contemplation et de profonde adoration de Jésus présent dans l'Eucharistie et dans notre cœur après la communion. On a tous en tête cette très belle prière du Padre Pio quand lui-même communiait, il reprenait le thème biblique des pèlerins d'Emmaüs et le déclinait de 1000 manières. Restez avec moi, Seigneur. Vous saviez combien je suis faible et combien je m'éloigne de vous et je vous abandonne et j'oublie votre présence dans ma journée. Restez avec moi. Et il avait cette prière, ce cœur à cœur avec le bon Dieu, où il lui demandait de rester avec lui pour refaire ses forces, pour mieux l'aimer, voilà, pour mieux le reconnaître dans sa vie. Eh bien, nous aussi, quand on n'a pas trop le temps d'adorer ou de faire un temps d'adoration dans nos semaines ou une visite au Saint-Sacrement, soignons ce temps d'action de grâce à la messe, après la communion ou à la fin de la messe, que ce soit vraiment une oraison profonde et intense d'un cœur à cœur avec le bon Dieu. Alors, pour terminer, quand une âme ou une communauté se met à adorer, vous savez qu'elle fait plus qu'un acte privé, c'est pas un acte de dévotion privée, c'est un acte liturgique, mais surtout dans cet acte, eh bien, par cet acte d'adoration, elle accomplit deux grandes choses. Elle fait un acte d'évangélisation et un acte prophétique. Je voudrais finir par ces deux réalités-là, parce qu'on oublie souvent que l'adoration est un acte d'évangélisation. C'est même une des formes les plus efficaces de l'évangélisation. Vous savez, voir pour des gens non chrétiens, des personnes dans le silence, au cœur de la nuit ou dans la journée, en train de prier et d'adorer Jésus devant le Saint-Sacrement, eh bien, pousse, dans une église qui est éclairée, pousse souvent les personnes à venir justement dans cette église et découvrir la ferveur et l'amour qu'on a envers le Saint-Sacrement, eh bien, pousse ces gens à dire, tiens, Dieu est ici, la présence de Dieu. Et vous savez que c'est le premier acte qu'a fait le curé d'Ars dans sa paroisse, un des premiers actes, et qui a frappé ses paroissiens et qui lui a permis d'évangéliser le cœur de ses paroissiens, du coup. C'est que ses paroissiens étaient étonnés de le voir, même tôt le matin, tard le soir dans la nuit ou dans la journée, présent devant le Saint-Sacrement en train de l'adorer. Et ça a été le premier acte missionnaire de sa paroisse, d'adorer Jésus devant le Saint-Sacrement. Et du coup, les gens se sont dit, voilà un prêtre qui aime le bon Dieu et qui y croit, en fait, que Dieu est parmi nous. Et redonnant la joie, évidemment, à sa paroisse et ses paroissiens. Et c'est l'expérience d'ailleurs de grandes communautés ou de nos missions que l'on fait sur nos paroisses. L'été dernier, par exemple, il y a eu le groupe Annonzio qui est venu à la Dorade, et dans ces missions, sur les quais de la Dorade, eh ben, l'église était ouverte, le Saint-Sacrement était exposé, certains priaient devant le Saint-Sacrement, il y avait des chants méditatifs, et des gens rentraient, soit invités par les missionnaires, soit par tout seuls, parce que c'était beau, c'était illuminé, et c'était priant. Et j'ai le témoignage d'un homme qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 20 ans, qui était rentré ici, qui a parlé avec un des missionnaires et qui est venu me voir et qui pleurait parce que, me disait-il, ça faisait 20 ans qu'il n'avait jamais prié Jésus. Voilà. Donc c'est vraiment un acte d'évangélisation. Et puis c'est aussi, pour finir, un acte prophétique. Quand on adore, on anticipe ce qu'on fera dans la Jérusalem céleste. On fait ce qu'on fera dans l'éternité, quand nous mourrons. On fait ce pourquoi nous sommes faits, et pour toute éternité, louer, servir et adorer le bon Dieu. C'est donc l'activité la plus prophétique qu'on peut faire dans l'Église, l'adoration. Il n'y a pas de parole plus prophétique que de faire un acte d'adoration dans nos paroisses. Vous savez, dans l'Apocalypse, on le dit bien, à la fin, dans la Jérusalem céleste, dit l'Écriture, l'agneau ne sera plus immolé, on ne dira plus la Sainte Messe, On ne fera plus le saint sacrifice de la messe, dit l'Apocalypse, mais nous le contemplerons sans cesse. Et l'Apocalypse de rajouter, on n'aura plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière d'un soleil, c'est l'agneau lui-même, c'est-à-dire le Christ lui-même, qui sera notre lumière, et le Seigneur Dieu nous illuminera. Donc cessera dans notre vie, dans l'éternité, pardon, la sainte messe, mais ne cessera pas l'adoration. Voilà pourquoi aussi c'est un acte prophétique, une anticipation de ce que nous ferons dans la gloire du ciel. Merci à chacun de votre écoute. Et voilà, le Seigneur nous attend. Il est là, présent dans le Saint-Sacrement. Essayons de le rejoindre, eh bien, dans nos vies, dans nos semaines, pour prendre quelques minutes pour l'adorer.